sujet de plus en plus d'être sujet au découragement, hein, le sentiment que, précisément, non seulement les choses changent, ne changent pas, ne changent guère, se répètent, mais qu'elles s'enchaînent comme de façon inéluctable, qu'elles donnent un sentiment d'impuissance, et elles ont comme un caractère de nécessité qui pourrait même faire penser à la naturalité. Je pense à des articles comme celui de Monique Cantos-Sperber, par exemple, il y a un an environ, dans Le Monde, expliquant que si le système capitaliste était le plus fort, c'est parce qu'il était le plus naturel. Et si le socialisme se cassait la figure, c'est parce qu'il n'était qu'artifice.
Est-ce que vous pouvez parler un petit
peu? Ah oui, avec plaisir. Excusez-moi. Oui, oui.
J'ai un micro.
Je peux même m'approcher si vous voulez. Monique Cantos-Sperber, qui faisait un article dans Le Monde pour dire que si le capitalisme réussissait si bien et était inéluctable, c'est parce qu'il répondait aux lois de la nature elle-même. Bon, c'est la loi du plus fort. Bon, voilà, la jungle. Ouh là là, bon, la jungle des villes et la loi de la concurrence étant effectivement les lois de la nature, comme réduite à des rapports de force. Donc, tout ceci crée un sentiment d'impuissance ou est-ce que notre action agit, de quelle façon pouvons-nous transformer encore le monde, de quelle façon le faire changer? Et comment, alors ça fait trois ans que je fais un séminaire sur la question de la poursuite, dans tous les sens du terme. C'est pas seulement qu'est-ce que je poursuis et qu'est-ce qui me fait courir, mais qu'est-ce que c'est que le thème de la poursuite judiciaire, de la poursuite amoureuse, de la poursuite vengeresse, de toutes les formes de la poursuite. Et donc du coup, une réflexion sur la nécessité ou non des enchaînements, sur la question du suspense au cinéma, mais en fait, le suspens des poursuites, la discontinuité, de quelle façon, quand quelque chose s'enchaîne et se déroule comme un flux à la fois continu et inéluctable, on peut encore penser la suspension, le suspens, la rupture, la discontinuité, donc le renouvellement, donc le commencement. Est-ce que du commencement est encore possible ? Voilà. Et à force de se poser la question du est-ce que le commencement est encore possible, la question revient à se dire où en sommes-nous avec la dimension même du possible, parce que l'ordre de la nécessité, c'est précisément celui qui déploie le champ de l'impossible et donc coupe toute perspective. Donc la dimension, je dirais, dépressive ou parfois impuissante qui nous atteint, vient de ce que, dans la question que tu poses à travers cette question de la transformation, savoir où en sommes-nous avec le possible. Et comme, alors on le demande évidemment, on me fait venir, comme on fait venir beaucoup. Ah, j'ai oublié d'arrêter ça, je vais l'arrêter, excusez-moi. Je l'avais laissé allumer au cas où je me perdrais. Voilà. Excusez-moi. Donc, où en sommes-nous avec ce possible? Et puis de demander, par exemple, moi, qui ai une formation plutôt philosophique, est-ce que les philosophes, est-ce qu'une philosophe, une femme philosophe, ce qui est quand même pas facile, peut dire quelque chose sur ce sujet? Et du coup, je ne peux que constater que si cette question est philosophiquement très pertinente, où en sommes-nous avec la question du possible, c'est pas pour rien qu'actuellement la philosophie est en train de devenir le lieu d'une inculture. Comme vous savez, la philosophie maintenant, il y en a pas un petit peu, il y en a trop. On s'est plaint de voir disparaître l'enseignement de la philosophie. On se plaint de l'absence de poste pour les jeunes philosophes, on se plaint de toutes ces choses. Et en même temps, Comme vous savez, vous avez remarqué, la philosophie est devenue ce que l'on donne à distribuer à tout le monde et le plus tôt possible. Donc, sortir la philosophie de son propre champ, l'extirper de sa singularité, de façon à ce que ce dont il est question dans la philosophie, et qui est justement de s'adosser à son dehors, fait que tout le monde étant dans la philosophie n'a plus de dehors, elle est en vente partout, elle est accessible partout, et en ce sens, maintenant, quand on demande à quelqu'un qui fait de la philosophie ou qui s'entraîne et qui travaille dans le champ de la philosophie, quelle est sa position par rapport à la vie politique ou à la vie de la culture, on a une crainte tout à fait légitime, c'est de se dire je vais être la philosophe de service ou le philosophe de service qui est là pour donner, n'est-ce pas, la touche philosophique à un questionnement général sur lequel enfin la philosophie va aussi devoir renoncer à sa propre puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance de la philosophie? C'est de se mettre au travail sur ce qui n'est pas elle-même. Être philosophe, on peut faire de la philosophie de beaucoup de façons. On peut être philosophe en s'intéressant à l'histoire de la philosophie, à s'occuper à apprendre ou à transmettre ce qu'on appelle la philosophie historiquement fait. Mais on peut aussi, comme Michel Foucault en a indiqué avec force la voie, mais pas seulement lui, mais lui très héroïquement, de dire que la philosophie, c'était une vie philosophique, c'était une vie politique. C'était une façon de s'engager dans le monde, de prendre des responsabilités et d'assumer le courage de la pensée dans le monde où on est. Et à ce moment-là, il n'a pas d'autre philosophie que de se mettre au travail sur ce qui n'est pas au départ philosophique, mais justement qui ne l'est pas, ce qui ne l'est pas, le monde, alors le monde du travail, le monde social, le monde du corps, le monde de tout ce qui fait qu'une société est travaillée par une réalité. Et c'est comme ça que Foucault, vous avez les mêmes problèmes que moi, que Foucault a défini quelque chose qui me paraît important et sur quoi j'avais envie de m'appuyer aujourd'hui, qui est la notion de dispositif. C'est pour ça que j'ai recopié un petit texte qui est très célèbre, mais pour qu'on le réentende, comment Foucault définit le dispositif, précisément, vous allez le réentendre, ou l'entendre, je ne sais pas, pour désigner tout ce qui prend place pour créer de la nécessité. Tout ce qui fait que le réel est défini comme l'ensemble des déterminations, des pressions et les réticulations, les réseaux et les connexions qui font que quand nous vivons dans une société, il y a des stratégies de pouvoir qui s'inscrivent dans des dispositifs. Donc, je vais prendre ce texte pour que nous le réentendions ensemble et que nous nous demandions ensemble comment du possible, comment de la rupture, comment de la discontinuité, comment un écart est possible et comment les écarts, la possibilité des écarts réinscrits impossibles en sortant de la pression des dispositifs. Alors voilà comment Foucault, donc c'était censé dans les dits et les écrits, définit un dispositif. C'est un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref, du dit aussi bien que du non-dit. Voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, ça c'est les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c'est le réseau qu'on établit entre ces éléments. Par dispositif, j'entends une sorte, disons, de formation qui, à un moment donné, a pour fonction majeure de répondre à une urgence. Le dispositif a donc une fonction stratégique dominante. Il est toujours inscrit dans un jeu de pouvoir. Donc voilà ce que dit Foucault, et ça me paraît précieux à réentendre aujourd'hui. C'est que nous vivons dans des ensembles matériels, symboliques, de signes, d'institutions, de lois, de production, de rapports sociaux, etc. Mais qui sont articulés les uns aux autres sous ce nom qu'il appelle dispositif. Il a choisi le mot, nous en héritons, après tout, on n'est pas forcément obligé de garder ce mot, mais en tous les cas, je voulais le faire réentendre de la façon que Foucault voulait le faire entendre, pour parler d'une stratégie de la domination, de rapport de force, de rapport de pouvoir, qui crée, au fond, la nécessité inébranlable de vivre là-dedans, pas autrement que de la façon que tous ces ensembles s'accordent, s'ajustent, si vous voulez. Au fond, c'est comme un puzzle dont les pièces sont parfaitement ajustées. Et nous nous inscrivons dans l'hétérogénéité de ces pièces, mais de ces pièces dont les ajustements sont si bien composés stratégiquement qu'il n'y a plus que le sentiment de leur composition en bloc, hein, de leur composition consistante, de la consistance inébranlable de leur composition, et qui fait que le pouvoir que nous subissons se présente comme un ajustement inébranlable de pièces dans lesquelles nous devons trouver notre place, tout en oubliant que nous n'y avons pas de place. Donc, c'est ça le problème. Donc, quand je voulais faire réentendre ce texte de Foucault, de façon à poser la question de la fonction du possible dans un... En quoi un écart, les écarts sont possibles avec le dispositif? Qu'est-ce qui va créer de la rupture par rapport à, je dirais, au fond, l'inscription de Foucault contre la pensée structuraliste, hein. On n'est plus dans la composition cohérente, mais dans l'appel à la disjonction, dans l'appel à la rupture, dans l'appel au dysfonctionnement, dans l'appel au désajustement du puzzle. Alors, la question, vu l'ensemble, enfin l'énumération, je dirais l'inventaire de tout ce que Foucault désigne sous le nom de dispositif, fait qu'on peut se poser la question, le monde de la culture, hein, le monde que nous appelons de la culture, fait-il ou non partie du dispositif ? De telle sorte que l'ensemble des productions symboliques de toutes les créations ne sont finalement que viennent prendre leur place dans ces ajustements. Ou bien au contraire, est-ce que ce régime d'ajustement du dispositif stratégique de la domination fait que la question de la culture devient au contraire la question des puissances de désajustement, des puissances disruptives de la nécessité, contre la nécessité. En quoi la culture peut construire du possible? Alors, ce qui est intéressant, alors encore une fois, en faisant appel aux indications de Foucault, je ne suis pas une foucauldienne particulière, hein, je l'ai choisi comme point d'accroche, parce que la position de Foucault sur la question du sujet n'est pas du tout ce que je vais défendre. Cependant, ce qu'enregistre Foucault à travers sa dénonciation du dispositif, ou sa désignation, sa description et sa dénonciation du dispositif, c'est au fond quelque chose qui s'inscrit dans les années 70, c'est l'époque où tout ça est pensé, qui commence à s'inscrire à ce moment-là et qui ne cesse de se développer, qui est l'effondrement progressif de la vie politique, c'est-à-dire la désubjectivation de la vie politique, l'absence de vie politique, comme si Foucault enregistrait qu'au fond, en faisant appel à la vie philosophique, ce qu'il appelait la vie philosophique, en défendant la position cynique, surtout dans le dernier moment de sa vie, il considérait que la vie philosophique était la seule façon de rendre visible et vivante la vie politique, parce que le monde politique disparaissait à travers la mise en place du dispositif dont nous avons alors, après les années 80, vécu l'évolution sous la forme donc de l'évolution même du capitalisme, du néolibéralisme, devenant la construction massive de l'inéluctable, de la nécessité et de l'effondrement de la vie politique. Donc, quand Annie m'a demandé de venir un peu me joindre à vous pour réfléchir à toutes ces choses, je repensais à cette question de la culture et politique. Pourquoi ? Parce qu'au même moment où tu me demandais de venir, il se trouve que dans des lieux beaucoup plus engagés actuellement du point de vue politique, dans la recomposition d'une gauche, une résistance, bon, de tout ce que nous savons qui se passe actuellement, on m'avait demandé on m'avait posé la question suivante, qui est parlez-nous de la culture comme enjeu politique. La culture est-elle un enjeu politique? Et j'ai été très choquée par cette question, et en disant mais qu'est-ce que c'est qu'un enjeu? Qu'est-ce que c'est qu'un enjeu? Et alors j'étais allée voir dans le dictionnaire, et j'avais trouvé que l'enjeu, c'était la somme, au dictionnaire, la somme que l'on risque dans un jeu et qui doit revenir au gagnant. Et donc, le fait que l'enjeu soit marqué par ce monde du jeu, de l'argent et du gain, demander si la culture était un enjeu politique revenait pour moi, ça voulait dire que des gens qui étaient engagés dans le monde politique ou qui croyaient l'être se demandaient ce qu'ils avaient à gagner à se battre au sujet de la culture. Hein. Est-ce que un combat pour la culture allait nous faire gagner politiquement ? C'est donc à ce moment-là que j'ai renversé les choses et que j'ai voulu te répondre en disant que comme je pensais que la question de la culture était la condition de la vie politique et non pas l'inverse, que la notion même de politique culturelle, pour moi, était une imbécilité, d'autant plus qu'au même moment, il y a eu le texte de la cloche, voilà, la culture pour chacun, la culture pour tous, etc. C'est extrêmement choquant, à savoir si la façon dont un politique qui veut penser démocratiquement la vie de la communauté devait se poser la question de la culture en termes d'accès de chacun et de tous au fleuron de la culture dominante. Donc, voulant renverser cela, je t'ai répondu en disant « Ce que je voudrais, c'est prendre acte du fait que s'il y a un effondrement de la vie politique, c'est parce que ceux qui sont au pouvoir sont les véritables agents d'une inculture. C'est-à-dire, ils ont attaqué la culture, et ils s'attaquent tous les jours à la culture, ils sont les ennemis haineux du monde de la création, donc du possible, et cette haine du possible passe nécessairement, d'abord et avant tout, par un effondrement et une attaque de la vie artistique et de la vie culturelle, qui est la condition de possibilité de la vie politique. Donc, ce n'est pas que la vie, que les politiques doivent s'occuper de la culture, c'est de prendre acte que ceux qui s'occupent de politique doivent d'abord, a priori, fondamentalement, ne s'intéresser qu'à la question de la culture s'ils veulent qu'il arrive quelque chose au niveau politique. C'est-à-dire que c'est à condition de créer des citoyens cultivés, je m'expliquerai sur ce que ça veut dire, hein, que l'on aura... C'est à partir du moment où l'on prend au sérieux la dignité, la liberté et la puissance inaugurale de chacun de nous en tant que sujet digne et libre dans un monde de création, c'est parce que nous sommes chacun en demeure de nous réapproprier notre capacité du possible, alors il y aura de la politique. Il ne s'agit pas de faire de la politique et d'appeler les citoyens à la politique, il s'agit de fabriquer des sujets qui seront toujours capables un jour de reprendre leur place dans la vie politique. Donc, au lieu de politiser ceux qui sont incultes, il s'agit au contraire de cultiver ceux qui vont construire la politique. Donc ça, c'est capital pour moi, et donc je voulais me mettre au travail avec vous, peut-être de façon plus dialoguée que magistrale, je n'aime guère, sur la réflexion sur quels sont les composants de la culture. Quels sont les composants de la culture ? Ben, je me suis demandé à moi-même en me disant qu'est-ce que c'est que quelqu'un, en quoi je reconnais la culture chez l'autre. Et j'ai commencé par me répondre, à partir du moment où il y a de l'autre, il y a une culture. C'est-à-dire que pour moi, le premier geste d'inculture, c'est celui de l'effacement de l'autre. C'est que la culture consiste précisément à construire la place de l'autre. Et pourquoi c'est cela ? Parce que le sujet de la culture, qui est le sujet de la pensée, qui est le sujet tout court. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet ? Un sujet, c'est un sujet humain. C'est le sujet de la parole et c'est le sujet du désir. Or, le sujet de la parole, c'est le sujet de l'adresse. Et le sujet du désir, c'est aussi le sujet de l'adresse. Et en tant que il n'existe pas d'autre façon de construire de la subjectivation que dans l'adresse, l'adresse étant la construction, étant la place que l'on construit pour l'autre, la culture a pour condition et comme détermination, comme définition, la place que l'on fait à l'autre, que l'on fait à tout autre. Donc, qu'est-ce que c'est que la construction de la culture, pour moi ? C'est l'ensemble de toutes les mesures qui sont prises dans le dispositif aujourd'hui pour que de l'altérité disparaisse. Problème de l'identité, tout ce qui a rapport avec... l'inflation identitaire, tout ce qui a à faire avec l'exclusion de l'autre, tout ce qui a à faire avec l'effondrement du langage, tout ce qui a à faire avec toutes les exclusions, la construction de la banlieue au cœur même de chacun de nous, l'effondrement du voisinage, la disparition de l'adresse, c'est ça qui pour moi est... sont tous les gestes de la culture. Alors, c'est à partir de cette détermination de la culture que je me suis dit quels sont les grands, au fond, comment je les travaillerai de façon, comme des chapitres, hein, les chapitres de la culture. Et je me suis dit, au fond, il n'y a que quatre grands chapitres de la culture. Vous en trouverez peut-être d'autres. En tous les cas, je m'en suis donné quatre. Voilà. C'est la question de la parole, la question du corps, la question du temps et la question du travail. Ne plus prendre la parole, ne plus s'approprier sa parole, ne plus donner la parole, laisser s'effondrer le registre de la parole, là commence vraiment un registre fondateur, je dirais, de la culture. Et quel est le mode tout à fait pervers auquel je me suis particulièrement intéressée par mon champ philosophique propre, comment s'opère cet effondrement de la parole? Et il s'opère, je l'ai plus ou moins découvert et reconstruit à travers mon travail, par le rapport que nous avons à la visibilité, à l'invisibilité, à la mise en spectacle. Et d'ailleurs, on va retrouver sur cette question du spectacle et des industries de la communication. Souvenez-vous quand même que le ministère de la Culture s'appelle maintenant ministère aussi de la Communication. C'est que toutes les industries de la communication se sont saisies massivement du champ de la parole, du corps, du temps et du travail. Ils s'en sont saisis pour les atteindre de plein fouet, je dirais explicitement, au moment, lentement, méthodiquement, depuis les années 80, avec l'installation de ce néolibéralisme, ce capitalisme financier, de tout ce que nous savons sur ce qui a été décrit comme l'horreur économique ou la mercantilisation du monde. Mais c'est devenu, je dirais que le spectacle même de l'effondrement de la vie politique passant par sa condition, à savoir l'attaque directe des énergies de la création, pour moi, c'est la crise des intermittents du spectacle. Là, tout d'un coup, est visé de façon, sur son tranchant, de façon absolument précise, par le pouvoir, la catégorie sociale qui est en charge de la mise en scène des corps, de la parole, de l'émotion et de la temporalité, ces intermittents du spectacle sont attaqués sur la question du temps. Sur la question du temps, d'ailleurs comme leur propre désignation le fait bien entendre, à savoir que cette société est construite en tant que dispositif sur une notion fondatrice qui est la permanence. L'absence de transformation, l'absence de changement, la nécessité a besoin de mettre en place une catégorie qui est celle de la permanence, permanence du spectacle. Cette permanence du spectacle, les permanents du spectacle sont ceux qui sont au pouvoir et ils ont absolument le désir d'être les permanents de ce pouvoir. Donc la permanence du pouvoir a besoin de la permanence du spectacle. La permanence du spectacle s'attaque véritablement à ceux qui ne peuvent en défendre que l'intermittence, et en ce sens se joue de façon décisive la question de la discontinuité du temps de la création. Parce que s'il n'y a pas de discontinuité, alors il n'y a plus rupture, désajustement, création, nouveauté, commencement possible. Donc, la permanence, c'est l'installation de l'impossible, du changement. Donc, cette question, je crois qu'au moment où il y a eu cette crise dite de l'intermittence, dont malheureusement ceux qui en sont les victimes sont loin d'être sortis, hein, faut pas l'oublier, mais ils sont en même temps, je dirais, les victimes exemplaires, symptomatiques de l'attaque la plus virulente qui ait pu être faite contre la création, à savoir d'exiger que son temps de rémunération, donc de reconnaissance, d'existence, soit absolument le même que le temps de visibilité de sa production et du temps de réception de sa diffusion. Donc, Audimat, je n'ai pas besoin de rentrer dans, vous connaissez cette question, c'est-à-dire qu'on va reconnaître l'existence d'un artiste à condition de mesurer la rentabilité de sa visibilité en durée, en diffusion et en public, en réception. Donc, cette attaque absolument radicale, symptomatique, est une indication sans appel du fait que nous vivons dans un régime qui a la haine de ce qui crée. Quand il y a la haine de ce qui crée, il y a la haine de tous. Parce que ceux qui créent, créent eux pour tous. C'est la haine de tout ce que le possible, de tout ce qui est donné comme possible par les artistes à tous les citoyens, à tous les sujets. Donc, là, le mépris et la situation de mort, hein, de disparition à laquelle ont été soumis ceux qui s'occupent justement du visible, en disqualifiant radicalement l'invisibilité du travail, l'invisibilité des techniciens, le temps de la recherche, enfin bref, tout l'invisible, tout le temps invisible dans la création, est disqualifié et disparaît au profit de la seule permanence de la visibilité et des flux. Voilà. Donc pour moi, là, ça a été une indication sans appel. Je savais, nous savions tous en le voyant, qu'il y avait là un indicateur de ce qui allait désigner les stratégies, pour reprendre le mot de Foucault, les stratégies de la domination pour que le possible ne soit plus possible, pour qu'il y ait une élimination des puissances de transformation. Donc, je pense qu'en s'attaquant aux intermittents du spectacle, le pouvoir en place a indiqué que la mise en place d'une politique de l'inculture était sa stratégie fondamentale. C'est-à-dire l'effacement de tous les gestes qui fabriquent de l'autre. L'effacement de tout autre. L'effacement du régime le plus fondamental de l'adresse à tout autre, qu'est l'art. Car l'art n'est rien d'autre que le paradigme même, hein, de l'adresse à tout autre, quel qu'il soit, où qu'il soit. Donc il y a un réquisite d'universalité et d'égalité dans un geste d'art qui est nié, défait, et donc qui touche qui a touché tout de suite la catégorie du temps. Du temps pour justement ne défendre que la permanence, permanence du pouvoir, permanence du spectacle, permanence des flux. Qu'est-ce que cela veut dire, hein? Poursuite, jamais de suspension des poursuites. Et on sait que dans le monde de la justice et de la santé, ça se passe aussi comme ça. C'est-à-dire, nous vivons dans un système persécutif où on ne fait que poursuivre. Donc, pour moi, un deuxième temps dans cette réflexion sur la dimension persécutive du système, des dispositifs dominants, puisque je m'intéressais à la poursuite, mais que justement, si le monde de la culture et de l'art sont ceux dans lesquels il faut se battre pour qu'il y ait suspension, pour qu'il y ait disruption, pour qu'il y ait discontinuité, invention et commencement, le deuxième moment qui pour moi a été un indicateur décisif, ça a été cette fameuse, terrible et meurtrière poursuite en banlieue de deux gamins qui sont poursuivi à mort jusqu'à, comme vous le savez, finir électrocuté et mourir en banlieue, et l'inflammation absolue, l'inflammation radicale du territoire dans lequel se passe cette poursuite, cette persécution sans appel et qui est allée jusqu'au bout de son massacre. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et je vous le rappelle parce que c'est extrêmement intéressant sur la question de la, là encore, de la visibilité. C'est que quand l'environnement, quand la zone, quand toute la zone concernée par ce drame s'est révoltée, s'est enflammée, s'est scandalisée, jusqu'à mettre le feu dans la nuit et à utiliser tous les moyens à sa disposition pour photographier, filmer sa propre révolte, je l'ai ressenti, ou je vous transmets mon sentiment en tous les cas, comme une souffrance absolue de tous ceux qui sont effacés, exclus, effacés. Comme on le dit très souvent, de quelqu'un qui, d'un enfant qui épuise par sa révolte le monde qui le... On dit, il nous en fait voir. Hein, il nous en fait voir. Eh bien, ils nous en ont fait voir. C'est-à-dire, ils ont... tous ceux qui ont été absolument blessés par ces meurtres ont tout d'un coup voulu donner le spectacle éclatant, enflammé, incendiaire, donner une sorte de visibilité spectaculaire à leur révolte. Ils ont voulu faire voir. Ils ont voulu apparaître dans le champ qui les effaçait. Ils ont voulu réclamer un trop de visibilité, un plus de visibilité, donc une reconnaissance. Ils font un appel au visible, parce qu'ils sont en souffrance, non pas de visibilité, mais de regard. Tu n'as pas de regard pour moi, alors je vais participer paradoxalement au monde du spectacle que tu construis. Et là-dessus, le pouvoir ne s'est pas trompé. Tout d'un coup, soudainement, ordre à la télévision de ne plus montrer ce qui se passe à ce moment-là. Alors qu'on aurait pu effrayer le Pecno et tout le monde en disant « Voyez, voyez, comme ils se conduisent mal. » Pas du tout. Ordre est donné aux industries du spectacle de ne plus montrer ceux qui nous en font voir. Ce qui est vraiment intéressant, car ils ont bien compris qu'il y avait là tout d'un coup une réponse fulgurante, une demande de reconnaissance, un appel au regard, une souffrance, et qu'il ne fallait pas leur accorder la visibilité qu'ils réclamaient. Ce qui fait qu'il y a eu une surdétermination de l'effacement, en suspendant pourtant l'activité la préférée du monde qui nous gouverne, à savoir le spectacle. Il y avait vraiment du spectacle à voir, du feu, de la révolte, des flics, enfin bon, il y avait tout pour faire un spectacle, je dirais, télévisuel, excitant, et tout d'un coup, non, interdiction. Donc vous voyez, c'est très intéressant parce que la volonté d'effacement de tout autre va jusqu'à leur refuser. Et alors, c'est là qu'on voit les effets de la culture, hein. C'est que ceux qui ont été les victimes à ce moment-là, et de la mort, et de leur propre expression, de leur révolte, n'ont pas pris la mesure de la chose suivante, pourtant que Guy Debord avait saisi très tôt, hein, dès les années 60, à savoir... qu'il est dangereux, nocif ou même contre-productif de se battre contre son ennemi avec les armes de l'ennemi. C'est-à-dire d'avoir les mêmes moyens que son propre bourreau, d'utiliser les moyens de son propre bourreau. Et que cette façon de mettre en spectacle, de devenir les stars spectaculaires d'une révolte dont ils espéraient qu'à être trop visible, ça allait tout d'un coup fasciner tout le monde, ils ont été pris au piège de leur propre dépendance à l'égard du monde du spectacle. Puisque ce monde-là leur est offert sur un plateau avec Star Academy. Enfin, si vous voulez vraiment qu'on vous voie, mais venez vous offrir au commerce du spectacle. Ne faites pas un lamentable happening dans une banlieue, ça on n'en veut pas. Mais par contre, si vous le souhaitez, on ouvrira des écoles spéciales ou on va ouvrir un plateau télévisé, etc. On va vous ouvrir un champ de visibilité sans que soit analysé, et c'est là que l'inculture est active, sans que soit analysé le fait que ce sont des propositions désubjectivantes. Elles font semblant de reconnaître l'existence alors qu'elles ne proposent que des stratégies d'un nouvel effacement. À savoir, nous vous proposons les signes de l'identité à travers le commerce, à travers les marques, à travers le plateau télévisuel, c'est-à-dire l'ensemble des données mercantiles et industrie de la communication et de la télévision et des flux spectaculaires, est offert en prime à ceux qui sont voués à l'exclusion, à l'effacement, comme récompense de leur intégration et de leur à condition évidemment qu'ils veulent bien entrer dans le champ d'une identification. Hein. Alors vous enlevez vos capuchons, etc. Donc il faut absolument, pour qu'on les reconnaisse, qu'on puisse savoir à qui on a affaire et qu'on puisse les prendre dans le champ du spectaculaire. Donc, le sophisme, je dirais, de ces stratégies et cette stratégie de l'inculture dont sont victimes ceux qui sont les sujets même de l'effacement, de la désubjectivation, font que je voulais vous dire quels étaient les événements qui, dans le monde que nous partageons, m'avaient particulièrement touchée pour me signaler les champs que j'ai désignés de l'inculture, à savoir ceux du temps, hein, avec les intermittents, ceux de la visibilité et du monde, le monde du spectacle et de la voilà, et du travail, hein, avec les intermittents, c'est le rapport du travail à la création, la création étant un travail, et la question de l'adresse, de la reconnaissance, la question du regard et de l'adresse accordée à tout autre. Donc, je voulais vous indiquer que des moments forts dans notre histoire commune qui faisaient symptôme, qui avaient pour moi été des indicateurs décisifs sur lesquels je réagissais à ce moment-là en prenant la parole, en analysant, en écrivant, pour mieux comprendre et pour partager, pour transmettre une véritable interrogation sur les stratégies de désubjectivation qui nous traversaient tous, qui nous atteignaient tous à travers les industries audiovisuelles et les conditions de la mercantilisation ce que j'appelle l'inculture. Finalement, je ne suis pas à mon plan du tout, mais je circule de façon un peu erratique, mais c'est pas grave. J'ai parlé, oui, c'est ça. Je vous avais dit que cette question du donner la parole, donner du temps, donner du travail, pour que dans le sujet, c'est ça, la question de la création comme étant le champ de l'adresse à tout autre, quel qu'il soit, où qu'il soit, dans un geste fondamentalement égalitaire. Alors cette question, la question de l'égalité, qui est au cœur de notre désir de transformation, hein, parce qu'au fond, le désir de transformation, le désir de changement qui nous habite prend acte non seulement de ce que je viens de décrire, l'effacement du monde de la création, l'effacement de toute altérité, l'effacement de l'étranger. Donc, pour moi, la culture... où l'inculture est le régime de l'inhospitalité et la culture est celui... Qu'est-ce que c'est que la culture? J'ai dit que c'est la construction de la place de tout autre en dignité et en liberté. Et pour cela, la culture est forcément la construction du voisinage et de l'hospitalité. L'accueil à tout autre. La non-reconnaissance de l'autre... L'inhospitalité, c'est la culture. Alors, j'ai été amenée à travailler également sur cette question de l'hospitalité, alors par un autre chemin, hein, par un autre travail, qui est le travail dans les prisons d'une part et dans les hôpitaux, la question des hôpitaux psychiatriques, parce qu'il n'y a pas qu'en banlieue que les gens sont effacés. et que les autres, que tout autre est effacé, mais la question de l'aliénation mentale et celle de la délinquance, vous savez, qui sont vraiment les grands thèmes de la violence gouvernementale, de la violence du pouvoir aujourd'hui, font que la question que le régime de l'hôpital et de la prison sont marqués toujours par cette haine de l'autre, c'est-à-dire de l'inhospitalité absolue. C'est donc en étant vigilante sur toutes les mesures qui ont été prises pendant tous ces derniers temps dans le domaine judiciaire et dans le domaine de la santé que je désigne, que je dénonce et que nous pouvons nous rendre compte et dénoncer et mettre, nous entrer en résistance contre l'inhospitalité foncière du régime que nous subissons aujourd'hui. La haine de l'autre, c'est la haine de l'hôte, hein, c'est le fait du non-accueil et ce que disait Martelly du syndicat de la magistrature, c'est la transformation du tissu social en tissu carcéral, chacun devenant à la fois le juge, le prisonnier et l'emprisonnière de tout autre, le surveillant et le surveillé, le dénonciateur et le dénoncé. Il y a une espèce de confusion totale qui fait que la prison n'a plus besoin d'être la prison. Il y a une carcéralisation du monde dans lequel nous vivons. Et cette carcéralisation, eh ben, elle est la définition même du dispositif dont je partais, à savoir que les réseaux, la réticulation, l'articulation serrée du puzzle dans lequel les stratégies du pouvoir enserrent chacun de nous font que nous sommes dans un enfermement généralisé et que nous n'avons presque plus besoin d'enfermer puisque la société elle-même devient le régime généralisé d'un enfermement dans lequel personne ne peut entrer s'il ne répond aux conditions qui lui sont posées, à savoir d'identité, d'identification, d'unification et d'entrer dans la scène du spectacle généralisé de la permanence du pouvoir et des différentes espèces des dispositifs. Alors, bon, comment reprendre le thème dans ce tableau à la fois sinistre et que je voudrais, il est, parce qu'il est sinistre, mais qu'il n'a absolument rien de nécessaire, d'inévitable, de fatal, et qu'il est au contraire, il n'est que rhétorique, c'est-à-dire que on ne cesse de nous soumettre à ce régime temporel des flux et à cette rhétorique de l'inévitable, et je ne cesse et nous ne cesserons de relever la tête et au contraire de prouver et de défendre, de résister. Alors, je ne vais pas vous faire du Stéphane Hessel, il le fait très bien tout seul, mais je pense que la question de l'indignation ou de l'indignation qui a une grande noblesse quand ça vient de cet homme, parce que sa vie est précisément à l'image même de cette indignation, je dirais qu'elle ne suffit pas dans son analyse, en tous les cas, elle nécessite, pour être convaincante et active, la reprise de la question qu'est-ce que c'est que la dignité, hein, parce que s'indigner, et nous voyons bien ce que ça veut dire, hein, crier au scandale, se révolter, se dresser contre, résister, mais pourquoi ? Pour construire la dignité. Pour construire la dignité, c'est-à-dire dénoncer l'indignité, c'est construire la dignité. Qu'est-ce que c'est que la dignité ? Ben, la dignité, elle est fondée sur la question de l'égalité. La dignité, c'est celle qui construit la notion de justice. Il n'y a de dignité que dans la justice, et l'exercice de la justice, c'est celui qui nous donne notre dignité. Donc, qu'est-ce que c'est que cette dignité, sinon la reconnaissance par chacun de l'égalité de principe avec tout autre, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quelle que soit sa condition, qu'il soit, quelle que soit non seulement sa couleur, sa religion ou l'état de ses finances, là va de soi, mais quel que soit même l'état de son intelligence. C'est ce en quoi d'ailleurs je me sépare de Rancière, qui dit qu'il y a une égalité en intelligence. Moi je dis, mais ce n'est même pas nécessaire. Je n'ai pas à me poser la question de l'égalité en intelligence, parce que le problème de l'égalité, il est même en amont de cette question-là. L'égalité, c'est un principe radical de l'autre, quel qu'il soit, fût-il hébété. Il est en dignité, et ça, si on ne cède pas sur cette question, la question de l'égalité est insoluble, parce qu'il y a une inégalité de fait. Il y a une inégalité de fait. Donc il y a une inégalité de droit. Et cette égalité de droit, elle ne peut être qu'une fiction constitutive, une fiction constituante. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'inégalité de fait, qui fait qu'il y a des gens, il y a des gens plus jeunes que les autres, plus bêtes que les autres, plus ignorants que les autres, plus pauvres que les autres, plus faibles, comme il y en a des plus forts, des plus riches, des mieux lotis de naissance ou d'acquisition. L'inégalité de fait est évidemment ce sur quoi repose l'exercice même du pouvoir. Tout pouvoir est fondé sur l'inégalité. Et donc se donne comme inéluctablement lié à la réalité, voire même comme réel, sous prétexte que dans la réalité, c'est un fait que nous ne sommes pas égaux. Seulement, cette inégalité de fait ne peut absolument pas construire du partage. Elle ne peut que construire du pouvoir. Alors, c'est pour ça que je voudrais maintenant faire un petit précision philosophique sur la question du pouvoir par rapport à l'autorité, de façon à comprendre que s'il y a égalité de droit, radicalement sans appel et avec tout autre, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son état, son âge, sa condition, etc., cette égalité de droit ne peut soutenir une vie politique qu'à condition effectivement de donner à tous ses sujets égaux en droit et donc en dignité et en liberté la possibilité de débattre sur ce qui va construire la vie commune à travers alors les dispositifs dont parle l'organisation de l'espace et du temps partagé, du débat, du conflit, à travers ces inégalités de fait. Tout pouvoir fonctionne sur une asymétrie, quelle qu'il soit. Pouvoir, je vous ai dit, du grand sur le petit, du fort sur le faible, du riche sur le pauvre, du bien portant sur le malade. Les exercices du pouvoir utilisent toutes les asymétries avec des légitimités variables, mais sont fondamentalement liés à un constat de fait des asymétries. Alors, pour mieux comprendre ce que j'appelle l'autorité, je prendrai un exemple simple et que nous connaissons familièrement, à savoir les rapports des petits avec les grands. Ils sont petits, ils sont faibles, ils sont non autonomes, ils sont ignorants, bref, tout est là pour désigner l'enfant, le petit enfant, et le mettre au pouvoir de ceux qui, forcément, ont par rapport à eux tous les avantages de la taille, de la force, du savoir, de l'expérience. Et donc, voilà. Alors, si le rapport que l'on a, si le rapport que l'on a à cet enfant est un rapport de pouvoir, du fait d'une inégalité de fait que l'on constate, même visuellement, hein, il est plus petit, il est plus faible, est-ce qu'un rapport d'éducation est un pur rapport de pouvoir? Et de quelle façon celui qui est éduqué va continuer à vivre ce rapport de pouvoir, ou va-t-il en sortir ce qu'on appelle une émancipation? Qu'est-ce que c'est qu'une émancipation? Alors c'est très important de le penser dans le domaine de l'éducation, parce que ça va être généralisable. Qu'est-ce que c'est qu'une émancipation? Comment sort-on d'un rapport de pouvoir? Comment est-ce qu'on se réapproprie, dans une inégalité de fait, sa puissance inaugurale, sa puissance disruptive, la capacité de commencer un monde alors qu'on débarque dans ce monde en étant plutôt l'effet de ses conditions que la cause de ce que l'on devient. J'arrive au monde comme un effet du désir des autres, et ça peut se prolonger jusqu'à la mort. Donc si je suis conditionné, comment je vais me déconditionner? Et quels sont mes chances de me déconditionner? Donc si vous voulez, le modèle, la question de l'éducation de l'enfant est extrêmement intéressant, parce qu'il est paradigmatique finalement de la question de l'émancipation. Qui, étant sous le pouvoir, dans une inégalité de fait, sous quelque pouvoir, trouve les moyens de sortir de cet effet du pouvoir? Donc c'est là que la réflexion sur la question de l'autorité est très importante, à partir de l'éducation. Si une éducation ne se fait qu'en termes de pouvoir, il n'y a strictement aucune chance pour que cette relation de pouvoir ne se reproduise pas à l'infini. C'est-à-dire que l'inégalité soit transmise de façon inévitable, et que la nécessité et des rapports de pouvoir font que... il va y avoir reproduction, il va y avoir soumission et reproduction de la soumission, et donc les rapports de pouvoir vont fabriquer des esclaves et des dictateurs. Je ne vais pas rentrer dans ce que Hegel a expliqué sur tout cela, c'est clair, mais ce sur quoi je veux revenir, c'est qu'est-ce que c'est alors qu'un autre rapport qui, dès l'enfance, poserait d'emblée, dès qu'on est petit, non pas en disant « plus tard tu pourras faire ce que tu veux, mais pour l'instant tu es sous mon pouvoir », c'est au contraire pas de remettre à plus tard la question de l'émancipation, mais dès le commencement de poser le problème de l'autorité. À savoir, qu'est-ce que c'est qu'être en situation de domination de fait, tout en reconnaissant en celui sur qui on exerce cette domination une égalité de droit en dignité et en liberté dès le départ, dès la plus petite enfance, dès la naissance? Comment se construit cette reconnaissance du sujet de la parole et de la liberté à l'orée même de la vie? Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les psychanalystes, qui intéressent les éducateurs, qui intéressent tous ceux qui se trouvent dans des situations pédagogiques ou qui sont dans des situations de domination par rapport à des dépendances, mais qui, je crois, pose un problème politique radical, à savoir qu'on n'a pas à prendre le pouvoir à un moment donné et à promettre la liberté un peu plus tard, on a à reconnaître l'égalité au départ. Et que c'est même tellement fondamental que si l'on a raté ce moment, je dirais, que si l'on n'a pas exercé ou mis en place cette question de l'autorité, eh ben, il va y avoir justement ce problème d'être reconnu ou de ne pas être reconnu dans sa liberté. Autrement dit, si, pour reprendre le modèle de l'éducation de l'enfant, si on ôte à un enfant le pouvoir de désobéir et de mentir, si on ne reconnaît pas en lui la liberté de désobéir et de mentir, de n'avoir aucune obligation à obéir ou à dire la vérité, si on ne reconnaît pas cela, ce que l'on obtient de lui dans un registre de pouvoir n'a aucune valeur politique, n'a aucune valeur constituante de sa subjectivité. Donc, ce que j'appelle autorité, c'est l'exercice d'une domination dans lequel s'inscrit la reconnaissance absolue de la liberté et de la dignité du sujet sur lequel cette domination s'exerce. Ce qui change totalement les rapports parents-enfants, les rapports pédagogiques, tous les rapports de domination, quels qu'ils soient, tout ce qui, les abus de pouvoir. Et donc, l'autorité est une situation, je dirais que la pensée de l'autorité est une pensée paradoxale, parce qu'elle pose une égalité de droit au cœur d'une inégalité de fait. Elle pose une fiction, je l'appelle une fiction, hein, un imaginaire constituant, parce que la reconnaissance qu'il y a de l'autre dans la vie qui est en train de commencer sous mes yeux, petite, ou dans la vie que je rencontre, hein, de tout autre, quel qu'il soit, le premier venu, c'est une expression très, très importante, hein, les Grecs l'appelaient autoukon, le sujet de la rencontre. Qui que ce soit que l'on rencontre, il y a un axiome qui est de principe, qui est de poser de façon constituante son égalité de droit en dignité et en liberté. Cela veut dire quoi ? Qu'il y a en tout autre, quel qu'il soit, un potentiel, une puissance inaugurale, une puissance inaugurante, c'est-à-dire un sujet qui n'est pas simplement l'effet de ses conditions, déterminé par tout ce qu'il a déterminé à n'être que ce qu'il est, car nous sommes tous dans cette situation, de n'être que ce que nous sommes, parce que nous avons rarement décidé d'être là où nous sommes, au moment où nous sommes, comme nous sommes. Sinon, toute biographie sincère n'est finalement que le récit d'enchaînement dont nous aurions du mal à assurer que nous en avons été les maîtres et les décideurs à tout instant. Bien au contraire, nous sommes bien conscients, en nous remémorant notre histoire, qu'il y a une cascade de choses qui n'a pas fini de se dérouler, et que, en ce sens, la psychanalyse est extrêmement intéressante, puisqu'elle a posé de l'intérieur la rupture de la répétition, la question du répété ou du non-répétable, ou du suspens de la répétition, pour rendre à celui qui est dans une souffrance psychique, qui est celle de la répétition, de lui rendre sa capacité disruptive, c'est-à-dire tout d'un coup de se réapproprier sa capacité de commencer autrement, autre chose, et de ne pas voir dans sa vie que la conséquence inéluctable de ce qui a précédé, de ce qui l'a précédé. Nous sommes précédés. Ça ne veut pas dire que nous devons absolument être une catastrophe ambulante qui continue à dérouler le programme de ce qui nous a causé. Donc, la question de l'autorité, elle fait entendre de l'intérieur même, en français, le mot auteur. Le mot auteur et le mot acteur. En fait, le mot autorité vient du mot auteur, et le mot auteur vient du latin augere. Hein, Benveniste, qui a travaillé sur le vocabulaire de la construction de la langue indo-européenne, remarque que l'autorité vient de augere, qui veut dire augmenter, croître, pousser. C'est-à-dire l'autorité, c'est ce qui fait un auteur. Et un auteur, ben, c'est ce qui donne naissance, ce qui fait pousser quelque chose qui n'était pas là avant. L'auteur, c'est celui qui fait pousser. C'est un pousseur. Ce verbe pousser est extrêmement intéressant parce que c'est ça qui est dans l'autorité. C'est ce qui pousse. C'est très intéressant parce que, voyez-vous, dans ces mots latins qui disent gérer, augmenter, pousser, augmenter, déployer une force potentielle, voilà, le possible, hein, l'augmentation, c'est la venue du possible, la pousse, c'est la nouveauté, mais pousser, vous voyez, c'est aussi, en latin, quand on dit que quelqu'un conduit, il y a deux façons de dire qu'on conduit. Alors, c'est sur un modèle agricole. Il y a deux façons pour les bergers de conduire. Il y a les bergers qui prennent la tête du troupeau, du serré, ça s'appelle, dux, le chef. Hein. Les conducteurs. Donc, il y a des gens qui, quand ils conduisent, prennent la tête. Ils sont des généraux, ils sont des chefs, ils sont en tête et ils conduisent. Et ils demandent quoi ? Qu'on les suive. Hein ? Les fureurs. Et puis, il y a des positions pastorales différentes à gérer, qui n'est pas seulement agir, mais qui est pousser. Ce sont ceux qui, au lieu de conduire les troupeaux ou de conduire les armées en prenant la tête, se mettent derrière et les poussent. Les conduisent en étant derrière. Et bien c'est ça l'autorité. C'est conduire en étant derrière. C'est pas conduire en étant devant.
On peut conduire à l'abattoir aussi.
Hein?
On peut conduire à l'abattoir.
À l'abattoir, on est devant. Ah non, non. je vous comprenais bien que ceux qui conduisent à l'abattoir n'ont pas d'autorité. Ce sont vraiment des chefs. Enfin, en tous les cas, ce que j'appelle ici autorité, vous l'entendez. C'est ceux qui reconnaissent l'égalité de conditions qu'ils partagent avec ceux dont ils sont à la fois. Ils accompagnent le mouvement. Ils accompagnent le mouvement. Mais être accompagné, accompagner un mouvement, ça n'est pas ordonner un mouvement. C'est pas décider du mouvement. C'est pas obligé à aller. Parce que finalement, si vous accompagnez un mouvement, ben vous êtes aussi amené à découvrir ce que le troupeau que vous poussez devant vous va peut-être vous amener à découvrir, à savoir qu'il ne va pas forcément aller là où vous croyez. J'ai fréquenté des bergers, ils me l'ont dit. Il y a un aléatoire. Hein, ça ne va pas forcément comme ça. Hein, ce n'est pas uniforme. Donc, je ne vais pas du tout abuser de la métaphore rurale parce que ça n'aurait pas grand sens de le faire. Encore que dans la correspondance qu'il y avait entre Ricci et Kiarostami, par exemple, c'est très intéressant parce qu'ils ont joué là-dessus aussi, sur l'histoire des troupeaux. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans les vidéos de correspondance entre à Beaubourg, ça a été montré l'année dernière ou il y a 2 ans, où chacun faisait allusion à la façon dont, en faisant des films, ils conduisaient, poussaient, ils accompagnaient le mouvement. Hein. Qu'est-ce que c'est diriger un acteur ? Est-ce que c'est lui dire voilà ce que tu dois faire ? Ou est-ce que c'est accompagner quelque chose qui fait que l'acteur est aussi auteur ? C'est-à-dire qu'il y a qu'un acteur, c'est pas quelqu'un qui obéit à un metteur en scène, c'est quelqu'un qui est accompagné par le metteur en scène, qui en même temps respecte dans l'acteur l'aléatoire. Et d'ailleurs, toute personne qui a travaillé sur un plateau et qui écoute les metteurs en scène savent que les plus grands metteurs en scène ont été saisis et ont donné leur place. Les plus grands savent donner la place à cet aléatoire, qui fait que les acteurs qu'ils dirigent sont en même temps créateurs de ce qui se passe. Il s'est passé ça, ah ben ça on le garde. Vous voyez ? Donc, c'est très intéressant de voir que cette question de l'autorité dans la mise en scène, dans la réalisation, sur les plateaux, etc., elle est pleinement là. Savoir quand les acteurs évoquent la relation qu'ils ont avec des metteurs en scène, c'est très frappant de voir la différence qu'ils font entre ceux qui sont des chefs.